Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nico.
Bonjour Rita.
Sur les ondes de Radio Larzac International.
Rêverie brésilienne.
Devaneios brasileiros. L'année passée, nous avons consacré nos émissions du mois de mars aux femmes brésiliennes qui marquèrent et marquent encore l'histoire de la musique populaire brésilienne. Nous avons honoré les compositrices et les chanteuses brésiliennes de tous les temps, parlant d'elles en ces termes, les femmes qui écrivirent et qui écrivent encore l'histoire de la musique populaire brésilienne. Cette année, je suis allée chercher Dominique Dreyfus, une femme qui a écrit, et écrit encore, par des livres, des articles, des documentaires et des expositions, l'histoire de la musique populaire brésilienne. Elle fut aussi animatrice d'une des premières émissions sur la musique brésilienne en France, au tout début de la célèbre station FM parisienne Radio Latina, et elle n'a jamais cessé d'œuvrer pour la connaissance de la culture et de la musique brésilienne. Notre émission sera un grand merci et un hommage au travail de Dominique. Nous vous présenterons l'entretien que j'ai eu avec elle à Paris en décembre 2014. Mais auparavant, j'ai un petit message à passer à Dominique. Dominique, olha o meu recadinho para ti, querida. Maintenant, Nico, tu peux envoyer l'enregistrement de l'entretien.
Au départ, ma formation était universitaire. Donc, j'ai fait des études de portugais à la Sorbonne, ici à Paris. J'ai fait une agrégation de portugais, un DEA, un doctorat, enfin bon. Et il se trouve que mon doctorat, d'abord mon mémoire de maîtrise, puis mon doctorat, portait sur la musique brésilienne, sur le rôle, le rapport, l'articulation entre musique et société, comment la musique rend compte de l'histoire et de la société brésilienne. Et ça m'a amené à être invité à écrire des articles sur la musique brésilienne, parce que c'était une époque un petit peu lointaine, c'était la fin des années 70, début des années 80, et il y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient, qui écrivaient, qui divulguaient la musique brésilienne. Et donc, voilà, j'étais une espèce un peu rare. Et j'ai commencé à écrire dans la presse et également à faire des petites chroniques sur Europe 1, à la radio. Et donc toujours sur la musique brésilienne. Et en même temps, j'ai commencé un métier d'enseignante. Je donnais des cours à l'université. Et puis un jour, j'ai eu envie de me consacrer uniquement au journalisme. Donc j'ai quitté l'enseignement et je suis devenue journaliste. Je dirigeais un journal musical qui s'appelait Guitare et Clavier. Je dirigeais ce journal. Et puis, en même temps, j'écrivais dans Libération. Donc dans Libération, en fait, j'écrivais essentiellement sur la musique brésilienne et parfois sur la musique latino-américaine en général. Donc c'était un peu mon secteur dans les pages culture. Et puis, après Guitare et Clavier, j'ai été appelée pour diriger l'édition française de Rolling Stone. Donc j'étais essentiellement dans la presse écrite. Et à ce moment-là, j'ai été invitée à faire une émission sur Radio Latina. Alors, Radio Latina, c'était ce qu'on appelait à l'époque une radio communautaire. C'était quelque chose qui existait depuis les années, depuis 81, depuis l'avènement de François Mitterrand, qui avait libéré les ondes. Il y a eu une avalanche de FM. Alors il y avait les radios libres, il y avait les radios communautaires, les radios associatives, enfin il y avait plusieurs statuts de radio. Et parmi les radios communautaires, il y a eu Radio Latina, qui a été créée par l'Union Latine, ici à Paris, qui émettait ici à Paris, qui partageait d'ailleurs les ondes, je crois que c'était 99.9, avec une autre FM. Donc Radio Latina émettait le matin. Et il y avait une émission qui portait sur la musique brésilienne, qui était animée par Christian Pouillot. Il se trouve que Christian a été nommé, puisqu'il avait un autre métier, les radios, ces radios communautaires, c'était que du bénévolat, hein. On gagnait rien ou très peu. Donc les gens qui travaillent dans ces radios avaient un autre métier qui était leur gagne-pain. Et Christian, il est ingénieur, et il a été nommé à Rome, donc il est parti à Rome. Et il m'appelle, on se connaissait, puisque tous les gens qui travaillent sur la musique brésilienne ont formé un groupe, on se connaissait tous, il m'avait déjà invité dans son émission et tout ça. Et il me dit, écoute, je quitte Radio Latina je voudrais leur recommander de te prendre pour assurer la suite, est-ce que ça t'intéresse ? Ah, je dis, bah oui, super, et tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Latina. Et donc, c'était en 87, fin 86, début 87. Donc, je commence à travailler. J'ai une émission. Alors, c'était le samedi de midi à 2h. J'avais. Et j'ai appelé mon émission. J'ai tout changé. J'ai pas gardé le nom de l'émission de Christian, puisque c'était l'émission de Christian. Donc moi j'ai appelé ça Brésil sur scène, en laissant toujours planer le doute, est-ce que c'est Brésil sur scène comme les villages qui sont sur la rivière, comme on dit Bécon sur l'Indre ou je sais pas quoi. Bon, donc c'était soit Brésil sur scène parce que ça se passait à Paris, soit Brésil sur scène, c'est-à-dire Brésil sur la scène du spectacle. Hein, donc je disais toujours, bah, écrivez-le comme vous voulez, c'est soit... S-E-I-N-E ou S-C-E-N-E. Bienvenue à tous dans Brésil sur scène. Que l'hiver menace de plus en plus sérieusement, même chez vous dans le sud, et que sortent les doudounes, les couettes et les cache-nez, on a envie un peu de se vautrer dans un fauteuil, une boisson chaude pour se chauffer le cœur et de vieilles bonnes musiques pour caresser les sens, histoire de rêvasser un peu.
Non, l'hiver ne revient pas, c'est le printemps qui arrive. Mais nous venons d'écouter Dominique Dreyfus dans une de ses émissions de décembre 1992. Revenons à l'entretien.
Et donc j'ai commencé cette émission qui a très bien marché. Je crois que c'est une émission en tout cas, que j'ai adoré faire. J'ai reçu pendant 7 ans tout ce qui bougeait, de Brésiliens qui passaient par Paris, des artistes, de musiciens, des écrivains, des cinéastes, des acteurs, des comédiens, mais aussi des politiciens. Des hommes politiques, j'ai même eu Sarney qui était le président de la République du Brésil à l'époque, que j'avais eu dans l'émission. C'était vraiment très 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 chouette. Moi j'aimais beaucoup et je crois que c'était une émission qui était bien aimée, enfin qui avait une bonne audience. Et puis, malgré tout, une radio communautaire, forcément ça coûtait de l'argent à quelqu'un, à un mécène. Et le mécène de Radio Latina, à un moment, il n'en pouvait plus, quoi. Tout son argent y passait, il n'y arrivait plus. Et il a commencé à faire des démarches. C'était le directeur d'Union Latine. C'est un mec très passionné et tout ça, mais là... Et il a commencé à faire des démarches pour essayer, pour obtenir que Radio Latina devienne une FM commerciale. Donc le droit de faire de la pub, le droit d'avoir des actionnaires, tout ça. Mais à ce moment-là, le format était entièrement à revoir. Parce que le format de la radio communautaire, c'était un peu casanier. Il n'y avait pas beaucoup de règles. Et notamment, aucune des règles insupportables qu'il faut pour avoir de l'audience. avoir de la pub et tout ça. Et donc, il fallait reformater Latina. Il a trouvé un actionnaire principal qui était un network colombien qui s'appelle Caracol. C'est un groupe de médias, radio, télévision, qui s'appelle Caracol en Colombie, qui est un peu l'équivalent de Globo au Brésil. Donc une espèce d'énorme network très, très, très puissant. Sans doute, c'était le deuxième plus puissant après Globo en Amérique latine. Et c'est Caracol qui a acheté autant d'actions qu'il était possible, ce que la loi permettait. Je crois que c'était 20%, mais surtout... ils ont négocié de s'occuper, eux, de prendre en charge l'organisation de la radio. Et à ce moment-là, il fallait trouver quelqu'un pour diriger cette radio. Et comme je travaillais depuis très longtemps à Radio, à Europe 1 en même temps, enfin, j'étais chroniqueuse, j'avais une connaissance des radios commerciales que j'étais sans doute la seule à avoir au sein de tous les gens qui travaillaient à la radio. Et donc, on m'a proposé le poste. Et puis, il se trouve que je travaillais, j'avais fait Rolling Stone avec Lionel Rodcage. Et puis, ensuite, on a fait une émission, mais le contrat était arrivé au bout. On avait un contrat de 2 ans qui était achevé. Et donc, j'étais sans travail. Donc, bien sûr, j'ai dit, évidemment, j'ai accepté ce poste. Ça a été un boulot, mais un boulot incroyable. C'était absolument passionnant, mais vraiment, Et j'ai travaillé comme ça pendant 2-3 ans à monter cette radio, à lui donner un esprit, à donner un angle et tout ça. Et puis comme ça arrive souvent, quand tout a été prêt, Caracol m'a dit ben « Merci, bravo, au revoir ». Donc j'ai quitté Latina. Et puis à ce moment-là, j'avais atteint un âge canonique de 47 ans. Donc... C'est très difficile de trouver du travail salarié à ce moment-là. J'avais plus du tout envie d'aller en radio parce que ça s'était hyper mal passé. C'est-à-dire que là, je résume, Caracol, bonjour, au revoir et merci. En fait, il y a eu harcèlement pour m'obliger à démissionner. J'ai dit non. Enfin, ça a été très, très violent. Il y a beaucoup de gens dans la radio qui n'ont pas pris mon parti, au contraire, parce qu'ils ont vu une place à prendre. Enfin bon, ça a été assez crasseux. J'en garde un très mauvais souvenir. Et puis, heureusement, après, j'ai retrouvé d'autres gens qui, eux, avaient été bien et qui sont toujours à Latina. Et voilà, donc c'est très bien. Et donc, j'avais plus du tout envie de chercher du travail dans les radios. J'avais un peu trop soupé. Et donc, j'étais là à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire lorsque j'ai été contactée par un éditeur brésilien qui, étant au courant de ma facette de chercheuse que j'ai toujours gardée, c'est-à-dire j'ai toujours continué à faire de la recherche concernant la musique brésilienne pour mes émissions, pour mes articles, parce que de temps en temps, j'écrivais des trucs, des dossiers, Voilà, donc je continuais sans arrêt à faire de la recherche et j'avais fait un bouquin pour un éditeur en Suisse, tout ça. Et donc cet éditeur brésilien savait que j'avais fait notamment beaucoup de recherches sur un musicien du Nord-Est qui est un peu le père disons, entre guillemets, de la country music brésilienne, qui est Luiz Gonzaga.
Quando eu vim da minha terra foi com dor no coração. Quando eu vim da minha terra foi com dor no coração. Quando lá deixei meus pais, meus parentes e meus irmãos, aquela gente querida faz parte da minha vida. Como vou dizer que não? Se eu não sentisse saudade tanto assim eu não diria. Se eu não sentisse saudade tanto assim eu não diria. Minha história era sem versos, inspiração não teria. Era uma dor sem jeito que jorrando do meu peito coração se afogaria. Se passaram muitos anos, mas a saudade ficou. Se passaram muitos anos, mas a saudade ficou. Leva a vida assim cantando, sufocando a minha dor. Sou sangue de nordestino, marcado pelo destino de ser sempre um sofredor. Quando eu vim da minha terra, foi com dor no coração. Quando eu vim da minha terra, foi com dor no coração. Quando lá deixei meus pais, meus parentes e meus irmãos, aquela gente querida faz parte da minha vida. Como vou dizer que não?
Et ils m'ont dit, ben justement, on voudrait une biographie de Louise Gonzague, est-ce que vous voulez la faire? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, j'étais ravie. Et donc, je me suis consacrée 2 ans à écrire ce livre. Et quand il a été fini, mon éditeur m'a dit, oh, mais c'est hyper bien, t'en aurais pas un autre à écrire. Donc j'ai encore passé 2 ans à écrire un livre sur la biographie de Baden-Powell, le guitariste. Et puis j'étais en train d'écrire ce livre sur Baden-Powell lorsque j'ai reçu un coup de fil d'un producteur de documentaire ici en France, qui s'appelle Yves Billon, qui dirigeait une très grosse boîte de production, et qui me dit je voudrais faire une série de 5 documentaires sur la musique au Brésil. Et donc je cherche quelqu'un qui pourrait être mon conseiller artistique et qui peut me seconder, qui peut faire ce film avec moi. Et on m'a parlé de vous. Je dis, voyons-nous. Et en fait, ça a été passionnant, parce que là, on a travaillé encore 1 an là-dessus. Et ça a été très long, le tournage, parce qu'on faisait, on a filmé la musique dans 5 villes différentes du Brésil. Donc en fait, le tournage, on est resté des mois au Brésil. Et quand j'ai fini cette expérience de 5 documentaires, je commençais à savoir un peu comment on faisait un documentaire. Et ce producteur m'a dit... j'avais raconté plein d'histoires sur les histoires de la musique brésilienne. Je me souviens qu'un jour, je lui raconte l'histoire de la lambada, qui avait été un gros scandale ici en France. Donc je lui raconte ça, comment ça c'est. Et il me dit, ah mais c'est génial, il faut faire un documentaire là-dessus. Donc ça a été mon premier documentaire. Et puis une autre fois, il m'a dit, mais tu travailles sur musique et politique. Je dis oui, il dit, mais je voudrais faire une série sur musique et politique dans différents pays. Est-ce que tu as quelque chose pour le Brésil à me proposer? Je dis, bien sûr, le tropicalisme. Le mouvement tropicaliste qui est complètement politique et tout ça. Et voilà, et puis j'ai enchaîné, j'ai fait aussi des films sur des cinéastes, et puis j'ai fait aussi des trucs sur le cinéma argentin, et puis sur la musique française, et puis bon, voilà, là j'en suis déjà à 12 ou 13, 14, je sais plus, documentaires. Et. Donc voilà, depuis 95, donc ça fait 20 ans, presque 20 ans maintenant, 19 ans, en fait, je me consacre surtout au documentaire, tout en faisant des trucs à côté, comme en 2005, par exemple, il y a eu l'année du Brésil, la Cité de la Musique m'a engagé pour monter une exposition, voilà. Et puis, quand j'ai fini de monter cette exposition, j'ai été appelé à en monter une autre... au Brésil, puis une autre à Boulogne. Donc voilà, je me suis retrouvée en train de monter des expositions. Mais bon, c'était juste l'année du Brésil. Il m'arrive d'être appelée pour écrire et tout ça. Mais enfin bon, le gros de mon activité, c'est les documentaires. Alors, en gros, l'histoire de la lambada, c'est qu'en 88, au Brésil, en été, comme ça, à Porto Seguro, qui est une ville qui est au sud de Salvador de Bahia, qui est une sorte de Saint-Tropez brésilien de Bahia, la grande mode était à danser la lambada, qui était une danse qui venait de Belém, du nord-nord du Brésil, mais c'était un disque jockey qui avait ramené des disques en trouvant que c'était très dansant, que c'était très sensuel et très chaud. Et il avait ramené plein de disques et il passait ça dans un bar sur la plage et les gens y dansaient en maillot de bain. Enfin, c'était hyper sympa. Et je disais, c'est une espèce de Saint-Tropez brésilien. Donc, il y avait des gens du sud, de Saint-Paul, de Rio, qui viennent passer les vacances à Porto Seguro. Et ça a été une espèce de... Ça a fait le buzz. Donc, ces gens, quand ils sont... rentrés de vacances, ben il y a eu des, parmi eux, il y en a qui étaient disc-jockeys aussi ou qui étaient dans les affaires musicales, qui se sont dit mais faut lancer ça à Saint-Paul, c'est trop bien, et qui a lancé. Donc l'année est devenue, tu vois, la lambada est devenue la danse à la mode. Et à Porto Seguro, parmi tous les gens qui étaient là en train de danser lambada, il y avait un producteur français qui a dit mais c'est génial. Et donc il a pris quelques disques, il est revenu en France, il est allé voir un... Lui, il n'était pas producteur, en fait, je me trompe. Il était cinéaste. Il était en vacances, il était un peu dans la déprime, parce qu'il n'avait pas de boulot, je ne sais pas quoi. Enfin, il n'allait pas bien, il était allé au Brésil pour se remonter le moral. Et il rentre en France avec quelques exemplaires de lambada, et il fait écouter ça, et puis il avait filmé des images pour montrer un peu comment c'était l'atmosphère. Il montre ça à un producteur qui était connu parce qu'il lançait tout le temps des trucs de world music, l'Afrique, les Caraïbes et tout ça, qui dit c'est génial. Et donc il monte tout un projet en disant on va faire la danse de l'été. Ah, ils vont voir CBS, aujourd'hui c'est Sony, pour faire un disque. Ils vont voir une radio Europe 1 pour qu'elle sponsorise. Ils vont voir Orangina pour qu'ils donnent de l'argent. Enfin, ils montent tout un truc. TF1 pour une télévision. Donc ils avaient tous les médias et tout ça pour les aider. Ils disent bon, maintenant il faut un groupe pour enregistrer des lambadas, des titres de lambadas. Donc ils montent un groupe avec notamment Lou Alves, une chanteuse brésilienne. Mais voilà, ils font un casting, ils inventent un groupe de toutes pièces, ils inventent une danse plus adaptée à la France, tu vois, qui n'était pas la façon dont on dansait. Et ils commencent un travail de marketing absolument extraordinaire. Attention, la lambada arrive, voilà, c'est bientôt la lambada. Tout. Et le 21 juin, fête de la musique, au pied de la tour Eiffel, pof, première présentation de la lambada. Et comme toujours, quand on fait, quand on lance un disque, à l'époque c'était des vinyles, sur lesquels il pouvait y avoir 16 titres, mais il y a toujours le single, c'est-à-dire la musique qui va tirer la musique locomotive. Et le single, c'était une musique qu'ils ont appelée la lambada. Qui était une lambada dont ils avaient acheté les droits au Brésil, qui s'appelait Chorando Se Foi. Cette chanson-là, il avait été lancé au Brésil et les producteurs français avaient acheté tout un catalogue. Ils avaient acheté tout le catalogue de la maison de disques de Saint-Paul qui avait lancé les lambadas. Donc ils avaient 300 titres de lambada et ils ont fait un choix. Ils en ont sélectionné 16, dont une qui était le tube. Mais au lieu de lui maintenir son nom, Chorando Se Foi, ils l'ont appelé La Lambada. Et c'est avec ça qu'ils ont lancé, qui était une musique incroyable aujourd'hui encore. Tu l'entends une fois, elle te reste accrochée aux oreilles, tu la lances et tout ça. Et donc toute la presse en a parlé, parce que c'était un événement. Moi, je me souviens, j'avais fait une double page dans Libé, et dans laquelle j'avais regardé qui était l'auteur. C'était un mec qui s'appelait Chico de Oliveira, que personne ne connaissait. C'est tellement courant au Brésil qu'il y a un mec que personne ne connaît, qui fait une musique qui marche. Voilà. Sauf que le succès hallucinant qu'a fait cette musique immédiatement, ça a dépassé les frontières de la France. Et c'est parti ailleurs et c'est arrivé aux oreilles des Brésiliens. Et il y a des journalistes brésiliens qui ont commencé à dire aux journalistes français, il y avait Véronique Mortaigne du Monde, Yves Bigot, Libé et moi, qui nous disent, mais cette musique, c'est pas du tout une lambada et c'est pas du tout brésilien. C'est une musique bolivienne qui s'appelle Llorando se fue, c'est un autre rythme. Et c'est pas du tout de Chico de Oliveira. D'ailleurs, Chico de Oliveira n'existe pas. Et si vous regardez sur le disque de la chanteuse qui avait lancé ça, vous verrez que c'est adaptation de Marcia, je sais pas quoi. Et la musique, elle est des Hermanos Hermosa, deux frères boliviens, d'un groupe qui s'appelait Los Jarques. Alors on se dit, mais alors c'est qui Chico de Oliveira? Donc on commence à enquêter et on s'aperçoit que c'était les deux producteurs qui avaient déclaré les chansons à leur nom. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et c'est donc il y a un groupe de journalistes, Le Monde et Libé, qui l'ont écrit, qui ont dénoncé. Et là, ça a déclenché un bazar infernal qui est venu s'ajouter à un bazar souterrain qui était que EMI, qui était la maison de disques de Chorando se foi et tout, disait, attends, c'est quoi ces zozos? Et ils étaient en train de préparer eux aussi tout un truc pour dénoncer l'usurpation. Et donc ça a été très long, il y a eu un procès, je me demande si même tout est résolu, mais enfin les deux producteurs français ont fini par négocier en disant voilà, si la musique a fait tout ce succès, c'est quand même parce que nous on l'a travaillé ici en Europe. Donc ils ont divisé les droits. Mais pour qu'on ait une idée des droits d'auteur que ça a généré, les frères Hermosa m'ont dit, parce qu'après j'ai fait un documentaire là-dessus, après avoir été une des journalistes qui avait travaillé à l'époque sur l'affaire, quand j'ai fait le documentaire, j'ai vu revu les frères Hermosa et ils nous ont dit, ce qu'on a touché en droit d'auteur était à peu près équivalent, sinon plus, que le PIB de la Bolivie. Et avec, ils ont fondé une école de musique, ils ont ouvert une auberge, enfin un centre d'accueil pour les enfants abandonnés, un hôpital. Enfin, ça a été incroyable comme histoire.
Es-tu arrivé à la musique brésilienne? Tu parles un français de temps en temps avec un joli accent du Nord-Est que j'aime bien. De temps en temps, il se glisse. Comment se fait-il que tu as un accent un peu du Nord-Est du Brésil et comment se fait-il que tu es venu à la musique et à la civilisation brésilienne?
Ben, en fait, bien que je sois française et que je sois née en France, je suis partie, enfin mes parents sont partis au Brésil quand j'avais 2 ans et on est allé s'installer dans le Nord-Est. Et j'ai passé toute mon enfance au Brésil. Alors, j'étais une enfant qui aimait la musique. Je suis quelqu'un qui aime la musique. C'est-à-dire que si mes parents étaient partis s'installer au Vietnam, je pense que j'aurais aimé la musique du Vietnam. Si on était partis en Patagonie, j'aurais aimé la Patagonie et la musique de Patagonie. Mais on est allé au Brésil. Et donc, pour aussi loin que je me souvienne, je suis dans une familiarité avec la musique.
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu ver. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eu quero o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu ver. Quero a alegria de barco voltando. Quero a ternura de mãos te encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ai, como esse bem demorou a chegar. Eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero lhe dar.
À l'époque où je suis arrivée au Brésil, dans le Nord-Est, c'était le moment où Luiz Gonzaga, ce fameux musicien dont j'ai écrit la biographie, était en pleine ascension. On l'entendait tout le temps. Le père. Et il y avait un truc très très drôle. Tous les musiciens brésiliens du Nord-Est, de Bahia para cima, vers en haut, racontent tous la même histoire. Les gens de ma génération, c'est quand on était petit, dans les petites villes de l'intérieur du Brésil, du Nord-Est, il y avait les radios installées des services de alto-falante, le service des haut-parleurs. Donc, dans la ville, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient la radio, la musique de la radio toute la journée. Et donc, moi, j'ai souvenir, quand j'avais 2 ans, je ne me souviens plus trop, mais 3 ans à 4 ans, que j'apprenais par cœur en écoutant comme ça dans la rue toutes les musiques de Luiz Gonzaga, mais c'était la grande époque aussi de la samba canção. Je savais les pubs, toutes les chansons pour le savon, pour le parfum, pour les produits de nettoyage, pour tout. Enfin, je peux encore aujourd'hui les chanter. Enfin, donc, on vivait immergé dans cette atmosphère de radio, qu'on le veuille ou non, puisque elle était là, quoi. Elle était dans la rue. Et voilà, il se trouve que je suis née pour aimer la musique et j'ai commencé à en faire d'ailleurs quand j'avais 10 ans. J'ai toujours adoré faire de la musique, chanter, tout ça. Ça m'amusait beaucoup. Et cette connaissance que j'avais de la musique, tout le temps, enfin, j'achetais des disques, voilà, comme n'importe quel fan de musique. Mais cette connaissance que j'avais de la musique brésilienne a fait que quand j'étais étudiante à la Sorbonne et qu'il a été question que je fasse un mémoire de maîtrise et il fallait trouver un sujet, je me suis dit, mais moi j'adorerais travailler sur les paroles des chansons parce qu'elles elles disent tellement de choses du Brésil, elles racontent tellement bien le Brésil et les périodes et les régions que je voudrais travailler là-dessus. Et donc j'ai fait un mémoire de maîtrise, donc il a fallu un peu cerner, et c'était dans les années 70, c'était une grande période enfin, le début des grands combats féministes et tout ça, dans lesquels j'étais évidemment impliquée. Et donc, j'ai travaillé sur le discours amoureux dans la samba et sur, évidemment, comment parlait-on de la femme, comment la femme parlait, comment, voilà, les différentes façons d'appréhender la femme dans le discours amoureux. Et puis, voilà, puis après j'ai continué, j'ai passé la grecque et tout. Et quand j'ai inscrit une thèse d'État, je me suis dit, je vais continuer ce travail de recherche. Et donc j'ai travaillé sur... En fait, j'ai commencé à travailler, le thème c'était musique populaire brésilienne et société, image et miroir de la société. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis quand je suis devenue journaliste, j'ai arrêté, j'ai laissé tomber la thèse, j'ai pas fini. Et il y a quelques années, un jour que je regardais ma bibliothèque, j'ai regardé l'étagère Dominique Dreyfus. Et je me suis dit, j'ai vachement écrit quand même. Et je me suis dit, c'est drôle parce que quand même, tout ce que j'ai écrit, il y a un fil rouge dans ce que j'ai, dans la façon dont j'écris sur la musique brésilienne, qui est que je suis toujours dans ce regard du rapport, de l'articulation entre la musique et ce qu'elle dit de la société. C'est-à-dire, je ne travaille jamais comme une musicologue qui dit « Ah oui, là, ils ont mis des accords comme ci et des instruments comme ça ». Je suis toujours dans « Qu'est-ce que cette même... qu'est-ce que, quand il y a des accords comme ci et des accords comme ça, qu'est-ce qu'ils disent de l'évolution de la société brésilienne ? Qu'est-ce qu'ils racontent d'un moment ?» Et donc je me suis dit, il y a une cohérence dans tout ce que j'ai écrit, donc en fait voilà ma thèse. Et j'ai fait une thèse sur publication, c'est-à-dire que il y a un texte de thèse qui fait 200 pages et après il y a 1000 pages de publication.
Alors c'est super intéressant, cela rejoint complètement aussi mon optique. Je ne suis pas musicologue non plus, ni sociologue, ni historienne, ni rien. Mais dans toutes les émissions que j'ai fait l'année dernière, j'ai cherché pareil, le même fil d'Ariane, le même fil, c'est la relation entre la musique et les moments, la musique et le passé. Et même, qui sait, maintenant, regardons de maintenant, parce que nous sommes dans l'avenir, la musique et l'avenir de certaines périodes. Et là, maintenant que j'ai commencé aussi dans la musique classique, c'est pareil. La musique baroque, je suis dans la musique baroque, l'histoire des jésuites, l'enseignement, c'est pareil. C'est très intéressant. Il y a une autre chose que je trouve intéressante, l'émission, nous enregistrons maintenant au mois de décembre. Mais je vais la passer au mois de mars, et ce sera dit. C'est le mois de la femme, entre guillemets, parce que pour moi, tous les mois et tous les jours sont les jours de la femme. Mais je te demande alors de me donner quelques noms de musique, soit de compositrice, soit d'interprétatrice, que nous passerons. Peux-tu me le donner quelques-uns et me dire pourquoi?
Alors, peut-être la première, parce que c'est la première, c'est Chiquinho Gonzaga, qui, à la fin du 19e siècle, a été première femme qui a assumé d'arrêter de jouer du Mozart, la petite musique de chambre, pour se lancer dans la musique populaire. Et donc, elle a été une grande compositrice de choro, de modinhas, de cortajá, comme ça, voilà.
J'ai passé une émission entière à Chiquinho l'année dernière, au mois de mars.
Alors ensuite, on fait un grand saut. Peut-être que je ferai un retour en arrière. Mais là, tout de suite, il me vient à l'idée d'Alva de Oliveira, qui est pareil, la première compositrice femme de samba, qui a composé pour les écoles de samba. Un milieu absolument macho, fermé aux hommes, voilà. Et donc elle est et puis elle n'a pas entraîné beaucoup de gens derrière elle. Elle a été sans doute une des seules. Et je dirais Aracy de Almeida, qui était une des plus grandes interprètes de Noel Rosa, qui est un des plus grands sambistes des années 30. Et pourquoi elle? Parce que je l'adore. Elle est totalement merveilleuse. Thank you.
Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. Menina que namora na esquina e no portão, rapaz casado com 10 filhos sem tostão. Seu pai descobre o truque e dá uma coça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras coças são nossas coisas, são coisas nossas. Passageiro, prestamista e vigarista. E o bonde que parece uma carroça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras coças são nossas coisas, são coisas nossas. Malandro que não bebe, que não come, que não abandona o samba, pois o samba mata a fome. Morena bem bonita lá da roça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras coças são nossas coisas, são coisas nossas.
Alors, il y a quelqu'un qui est intéressante, parce que c'est une grande féministe, parce qu'elle s'est battue pour, justement, faire de la musique. Elle est compositrice, ce qui n'est le cas ni de Gal Costa, ni de Maria Bethânia, qui sont des interprètes, mais magnifiques. Mais il y a Joyce. Joyce, elle est intéressante parce qu'elle n'a jamais joué la carte de sexy, du spectacle paillette, comme le fait Gal Costa et Maria Bethânia, elle fait tragicomédienne. Joyce est très simple, elle vient avec sa guitare, pouf, elle joue, mais c'est une très grande compositrice et tout. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'elle est une des plus adaptées, les plus samplées, les plus remixées dans les discothèques londoniennes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai cru que c'était un peu un passage comme ça dans les années 90, mais non, pas du tout. J'entends encore des choses remixées sur elle. Donc Joyce, c'est intéressante.
Olha aí, Monsieur Binot, aprendi tudo que você me ensinou. Respirar bem fundo e devagar, que a energia tá no ar. Olha aí, meu professor, também no ar é que a gente encontra o som. E no som se pode viajar e aproveitar tudo que é bom. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural, e só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então olha aí, Monsieur Binot, melhor ainda é o barato interior. O que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. O resto nunca se espera, o resto é próximo. atmosfera, o resto é outra encarnação.
Il y a une autre qui est assez merveilleuse, qui est Marisa Monti. Elle est divine, Marisa Monti, elle est divine. Alors, il y en a une. Est-ce que tu as déjà vu les concerts de DJ Dolores? Alors, il y a une fille qui chante avec lui, qui est sa chanteuse. Et son nom, c'est France. J'adore le travail de cette fille. Elle fait pas un énorme succès, mais elle est... Et elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Coma de Fulosin, qui s'est défait, mais il y a eu des disques. Mais elle est très, très, très super. Alors, il y a toute une nouvelle génération actuellement. J'avoue que j'ai un peu de mal à faire la différence entre toutes ces voix de filles. Il n'y en a aucune qui, à mes oreilles, se détache. Comme par exemple, la première fois que j'ai entendu Marisa Monti, il y avait plein, plein de nouvelles filles. Et je l'ai écoutée, j'ai dit « Waouh ! » Il y a une personnalité, il y a un truc. Là, il y a plein de jolies choses, mais qui n'apportent rien de neuf. Voilà, qui ne me surprennent pas. Joyce a une fille qui s'appelle Clara Moreno, qui est venue faire un concert un jour au New Morning. Je l'ai trouvée totalement sublime, mais elle perce pas beaucoup. Mais ça vaudrait le coup de voir qu'est-ce qu'elle fait en ce moment au Brésil, s'il y a eu des nouveaux disques, mais c'était vraiment très très intéressant ce qu'elle faisait.
Dans les émissions de l'année dernière, tous les mois de femmes, j'ai fait aussi les enfants des femmes, et donc j'ai passé la fille de Clara, oui, d'autant plus que je l'ai connue ici à Paris quand elle avait 15 ans. Donc Dominique, tu as le droit aussi à deux hommes. cherche deux hommes.
Oh là là, il y en a trop, je ne sais pas. Je vais t'en donner plein, tu vas choisir dans le tas. Parce que, vraiment, il y a Noël Rose, Louise Gonzaga, dans les anciens, incontournable. Dans ma génération à moi, Caetano Veloso, Gil des années 70, surtout. Caetano, toute époque confondue, Gil des années 70. Chico Buarque, quand il chante les femmes, c'est trop sublime. Et puis dans la période actuelle, moi j'ai deux grands chouchous, il y en a plein, mais j'adore Silvério Pessoa et Lénine. Et alors Silvério Pessoa, ce serait une espèce de version très contemporaine, très moderne, très intéressante de Jackson do Pandeiro. Parce que lui, il est né dans le monde de la embolada. C'est-à-dire le littoral, zone littoral du Nord-Est. Embolada, c'est la version littorale du repente de l'intérieur.
Le repente, on peut traduire comment ici en France?
Je crois qu'on ne peut pas. C'est de l'improvisation. En fait, c'est du rap, hein, sauf que ça existe depuis le 19e siècle dans le Nord-Est. C'est de l'improvisation. Ça peut être parlé ou avec des musiques très monotones comme pour le rap, enfin la mélodie très répétitive et redondante. Et c'est hérité des troubadours du Moyen-Âge. C'est arrivé avec les troubadours donc à partir du XVIe siècle. Et c'est une forme qui s'est fixée et qu'on peut voir dans les gens dans les marchés qui font ça. Et puis parfois on les enregistre.
Je te remercie beaucoup. L'histoire de Radio Latina, c'est très intéressante parce qu'il faut dire tout de même que Radio Latina est à l'origine de la diffusion de la musique brésilienne en France. Avant Latina, il y avait Pierre Barreau qui a été un grand diffuseur de la musique, porte-parole de la musique brésilienne, même beaucoup plus que le Toulousain Nougaro. Tout le monde dit Nougaro, mais non, Pierre Barreau bien plus. Et Radio Latina aussi, et vous, Christian, et toi. Je remercie en tant que brésilienne.
Mais merci, c'était un plaisir. Moi, dès que je vois un micro, c'est le média que j'aime le plus. J'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. Et vraiment, j'adore la radio. Donc merci de m'avoir donné l'occasion d'avoir un micro en face de la bouche.
Le plaisir fut pour nous.
Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu.
Foi de primeira desolada na Caatinga que a história fez desenho na toca do boqueirão. No chão mineiro, achado crânio de Luzia, no semblante brasileiro, sincretismo e migração. Americano, carijó, tupiniquim, tibiriça, os caboclinhos, o cacique Raoni. Tupinambá, Iemanjá, Tamoio, o padre, Iansã, Xingu, Madeira, nossa terra era tupi.
Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu.
Na odisseia brasileira, Dom Henrique avançou os lusitanos pelo chão de Veracruz. No panorama de riqueza, Peru e Vasco, o poeta Pindorama, Terra Nova, Santa Cruz. Benin, Angola, Tombadilho, tem Benguela, Sudaneses, Novo Mundo, veio o povo da Guiné. Filhos do Congo, da Luanda, Mama África, Senzala, Casa Grande, Babalorixá, Axé.
Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada tem pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu.
Sarara, mulato negro, português, promiscuidade, cultura fez a nação. Caleidoscópio de cultura, resistência, burguesia, todo ritmo fez manipulação. Ciranda, corpo, poesia, marizia, afoxé, maracatu e a coroa imperial. Todo esse povo tem DNA do mundo, pouco de cada raça, etnia, autoral.
Pour entrecouper l'entretien, nous avons écouté les musiques suivantes.
Luiz Gonzaga.
Chantant Sangue do Nordestino.
Baden Powell interprétant à la guitare.
Chara.
Llorendo se fue interprété par le groupe.
Los Jarcas, l'original bolivien et non brésilien de la musique connue en France sous la dénomination La Lambada.
Dalva de Oliveira chantant.
A Noite do Meu Bem.
Araci de Almeida.
Chantant Coisas Nossas de Noel Rosa.
Joyce chantant Monsieur Binot.
Silvério Pessoa chantant Mix Raça. Le temps ne nous a pas permis d'écouter les autres musiciennes et musiciens cités par Dominique, mais vous le trouverez sur les rêveries brésiliennes précédentes. Nous vous rappelons les noms à chercher.
Chiquinha Gonzaga,
Maísa Matarazzo,
Maria Bethânia,
Gal Costa,
Isar,
qui chante avec les Digi Dolores, Clara Moreno, fille de Joyce,
Marisa Montes,
Noel Rosa,
Caetano Veloso,
Gilberto Gil,
Chico Buarque,
Lenine. Merci à Nico pour sa participation et pour assurer la technique de l'émission. Encore merci à Dominique Dreyfus qui nous a accordé cette interview. Nous vous donnons rendez-vous les mardis 24 mars à 19h ou les samedis 28 mars à 15h
pour parler et écouter la musique académique brésilienne du 19e siècle.
Mais quand vous le souhaitez,
sur le site de Radio Larzac, puis dans l'onglet son et émission.
Rêverie brésilienne sera rien que pour vous.
Restez à l'écoute de Radio Larzac.
Vous ne regretterez pas.
Terre de sang.